Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.
Le taux de couverture en électricité est passé de 33% en 2011 à 88% en 2023 avec un objectif de 100% à l'horizon 2025 selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly. Un dispositif de la surveillance du marché du ministère du Commerce existe depuis longtemps et lutte contre toute forme de fraude sur des produits de consommation. Un atelier de l'élaboration de la feuille de route dans le cadre de la transition vers l'économie bleue s'est tenu récemment à Grand Bassam. Et dans la dernière rubrique Bon à savoir, nous vous parlerons des aliments à privilégier pendant la saison des pluies. Merci. Et bienvenue à Espace Consommateur sur Radio de la Paix.
Espace Consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Droits et devoirs du consommateur.
Concernant le contrôle de la qualité des produits sur nos marchés, un dispositif de la surveillance du marché qui existe depuis longtemps a été récemment expliqué et présenté d'ailleurs par le directeur de la métrologie de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère du Commerce et de l'Industrie, Yapi Georges Kouassi. Il était l'invité de l'émission « Il y a problème » de la télévision privée Life TV.
Les produits qui circulent sur nos marchés sont conformes à nos législations, à nos réglementations. Et puis le contrôle de la qualité, bien entendu, c'est d'assurer que les produits qui sont mis en vente sont conformes aux normes de qualité, pour que ces produits-là ne soient pas source de maladies pour les consommateurs. C'est ce travail-là que nous faisons avec notre équipe, avec tous les services compétents de l'État d'ailleurs, chacun en ce qui le concerne, pour pouvoir mener les missions de surveillance du marché. Il faut dire que la surveillance du marché est faite sur la base d'un cadre légal et réglementaire. À ce niveau, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'un arsenal juridique bien fourni, bien large, pour pouvoir assurer la surveillance du marché. Il y a des tests de loi qui traitent des questions générales et puis il y a d'autres tests qui traitent des questions d'ordre spécifique. Vous avez par exemple la loi 64 qui traite des questions de débit de boissons, la loi 2016 relative à la répression des fraudes et la loi de la normalisation. Et donc tout ce arsenal juridique permet à l'État de faire la surveillance du marché. C'est le premier niveau, j'allais dire, de surveillance du marché, parce que si vous voulez contrôler quelqu'un, vous voulez juger quelqu'un, il faut qu'il ait les bases légales. Les réglementations. Le ministère du Commerce, à travers le Code des normes et tous les autres démembrements de l'administration, travaille pour élaborer des normes nationales. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a plusieurs types de normes, ce qu'on appelle les typologies de normes, et puis il y a les niveaux de normes. Et nous, ce qui nous concerne, ce sont les normes nationales qui sont rendues d'application obligatoire par le décret 2016-1152, qui donne la liste exhaustive des produits dont les normes qui sont rendues d'application obligatoire. Cela veut dire qu'un bien qui doit circuler sur nos marchés doit être conforme à cette norme de qualité. Maintenant, pour les autres produits qui n'ont pas forcément une attestation de conformité ou qui ne sont pas certifiés comme Codinor, alors nous veillons à ce que les autres tests réglementaires soient respectés. À ce niveau, comment notre marché est approvisionné? Il y a deux origines. Il y a les produits qui sont fabriqués localement, donc par les entreprises locales, et puis les produits qui sont importés. Sur la question, l'État a pris les dispositions nécessaires pour que les produits qui viennent sur notre territoire national soient conformes aux normes nationales. À ce niveau, l'État a coopté certaines entreprises qui sont hors de notre pays, qui délivre des attestations de conformité aux produits avant leur entrée sur notre territoire national. C'est ce qu'on appelle VOC, la vérification de l'attestation de conformité. Les produits fabriqués localement doivent également respecter ces normes-là et avoir également une attestation de conformité, ou bien aller vers la certification. Parce qu'un produit qui est certifié démontre aux consommateurs qu'il y a l'assurance nécessaire pour pouvoir consommer le produit sans assez de risques. Pour les autres, nos services de surveillance du marché font des prélèvements réguliers pour pouvoir envoyer ces échantillons dans un laboratoire, notamment l'ANEMA, qui est le laboratoire du ministère du Commerce, et d'autres laboratoires nationaux ou privés qui nous viennent en appui pour pouvoir contrôler la qualité de ces produits-là avant leur mise en marché. Maintenant, pour la suivante du marché, il y a des produits de contrefaçon. La contrefaçon, c'est un produit qui n'est pas conforme à notre réglementation. Parce que la contrefaçon, c'est la reproduction du marque, d'un dessin, sans l'utilisation de l'ayant droit. C'est la falsification, en fait. Donc, nous veillons à ce que ces produits-là soient pas sur notre marché.
Le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole était le jeudi 6 juin dernier face à la presse nationale et internationale à l'auditorium de la primature dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Le thème retenu était « Politique minière, pétrolière et énergétique ». Enjeux, défis et perspectives. Lors de son exposé, Mamadou Sangafoa Koulibaly a indiqué que la capacité de production de la Côte d'Ivoire est passée de 1391 MW à 2907 MW avec plus de 7508 localités électrifiées avec un taux de couverture de 88% en 2023 pour un total d'investissement de 1700 milliards de francs CFA. Toutefois, le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole est revenu sur le coût du kilowattheure de l'électricité. Mamadou Sangafoa Koulibaly.
Dans le cas de l'électricité, on devrait déjà à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on devrait au moins avoir le coût de revient. Parce que si on n'a pas le coût de revient, comme c'est le cas, le gap de 2 francs, parce que quand vous faites des bénéfices, plus vous vendez, vous gagnez. Mais quand vous faites des pertes, plus vous vendez, vous perdez. C'est le cas. La consommation de kilowattheure annuelle est aujourd'hui de 13 000 gigawattheures. En 2012, elle était autour de 6 000 gigawattheures. Donc si on perd 2 francs par kilowattheure, il faut multiplier ces 2 francs-là par 13 000 gigawattheures de ce qu'on perd. La deuxième chose, c'est qu'on aurait dû avoir le coût de revient et avoir quelque chose en plus du coût de revient. Pour faire quoi? Parce que quand on n'a pas le coût de revient, le privé qui nous a vendu l'électricité, on doit le payer. Même l'État, Côte d'Ivoire Énergie aussi produit, Petro aussi donne du gaz. Mais pour ces deux entités étatiques, nous sommes à des années d'arriéré de paiement. Pour les privés, 6 mois d'arriéré de paiement. Pour le gouvernement, le choix est clair. De deux choses l'une. Soit on garde cette position et dans quelques mois, le résultat de ça, c'est ce que malheureusement beaucoup de pays africains vivent aujourd'hui, avec des coupures et des délestages partout. Soit on prenait le choix d'aller dans cette direction, et vous pouvez imaginer que pour un gouvernement responsable, il est hors de question. Donc il y avait un effort à demander au niveau des consommateurs. Mais n'oublions pas que la demande croît. Il faut investir déjà dans le réseau existant pour qu'il ne se dégrade pas. Ensuite, avec les nouvelles demandes, il faut investir dans la production, dans le transport, dans la distribution.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Info consommateur.
Parlant des objectifs visés dans l'élaboration de la feuille de route dans le cadre de la transition vers l'économie bleue, le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui a ouvert récemment un atelier à Grand Bassam sur le sujet, a fait les précisions suivantes. Sidi Timoko Touré.
La feuille de route ambitionne de faire des systèmes alimentaires aquatiques un pilier majeur du développement durable en Côte d'Ivoire en exploitant pleinement les opportunités offertes par ces secteurs et ces systèmes en tant que moteur de création d'emplois, d'augmentation de croissance économique et de développement social.
À sa suite, le représentant résident de la FAO en Côte d'Ivoire, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a également mis l'accent sur les objectifs situant le rôle des parties prenantes. Ataer Maïga.
L'économie bleue vise également à instaurer un environnement permettant aux travailleurs des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et des autres secteurs en lien avec cette approche d'agir non seulement en tant qu'utilisateur des ressources, mais également en tant que gestionnaire de ces ressources.
En outre, la FAO entend s'investir pleinement dans la réussite du projet. Ataer Maïga.
Nous mettrons à disposition notre expertise technique, nos ressources et notre réseau global pour accompagner la mise en œuvre des actions prioritaires qui seront identifiées au cours de cet atelier.
Le directeur général de l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz, s'est exprimé récemment sur la situation du riz en Côte d'Ivoire au cours du rendez-vous hebdomadaire du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale dénommé Tout Savoir Sur. À la suite de cette intervention, Christelle Yesso s'est entretenue avec Yacouba Dembélé sur la politique de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire.
La première chose, du point de vue aménagement, c'est-à-dire travailler la terre pour qu'on puisse maîtriser l'eau et ne pas dépendre de la pluie, nous avons un potentiel d'environ 300 000 hectares. Mais nous n'avons que 55 000 hectares irrigués sur lesquels on peut faire du riz dans les bas-fonds à 2 cycles. Le reste, c'est sur les plateaux. C'est-à-dire c'est du riz pluvial. Vous attendez la pluie. Une fois la pluie est passée, vous attendez l'an prochain pour encore refaire. Ensuite, au niveau des semences, nous avions qu'un seul centre de production de semences qui se trouvait à Yamoussoukro. Donc, on produisait la semence. C'est de là-bas qu'on envoie la semence à toute la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas suffisant. La troisième chose, les paysans peinaient à avoir des engrais, des herbicides et tout ça pour eux. Donc, voilà où nous en sommes.
Dites-nous, monsieur le directeur général, combien de tonnes de riz la Côte d'Ivoire produit-elle actuellement?
Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 55% entre notre production de riz et les besoins au niveau national.
Sur les réseaux sociaux, il circulait une rumeur de riz dit caoutchouc. Qu'en est-il?
En fait, le riz contient l'amidon. Quand le riz est conservé pendant un certain temps, pratiquement tout se transforme en amidon. Et avec l'évolution, à un moment donné, vous mettez un peu d'eau dedans, l'amidon se resserre. Et ça peut devenir un ballon, mais c'est de l'amidon. Voilà. Le riz qui est importé, la plupart du temps, c'est du riz qui est conservé au lieu de production au moins 5 ans, quand ça nous arrive. Ce n'est pas le riz produit de la saison qu'on nous envoie. Donc quand ça vient chez nous, pratiquement, les éléments nutritifs, là, il n'y en a plus assez dedans.
N'y a-t-il pas de danger pour la santé des populations de consommer un riz qui a été conservé aussi longtemps?
Au niveau de la qualité des produits, il y a une direction de la qualité de l'alimentation qui fait l'analyse de tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Cette direction existe autant au ministère de l'Agriculture qu'au ministère du Commerce. L'État est garant de ce que la population mange. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, là, c'est pour ça. Faire en sorte que les importations diminuent jusqu'à s'arrêter même. Ce qui arrive après 5 ans, c'est difficile. C'est des matières vivantes. Hein. À un moment donné, ça se dégrade et puis vous n'avez que de l'amidon dedans. Et il y a un élément que des chercheurs nous ont révélé. Quand on parle de diabète aujourd'hui, là, l'amidon dans la bouche avec la salive devient du sucre. Donc, nécessité pour nous rapidement d'aller à l'autosuffisance pour épargner nos populations de cette situation-là. Si celui-là n'est pas de bonne qualité, automatiquement, vous êtes en train de vous empoisonner, vous ne vous rendez pas compte. Vivement que nous allions à l'autosuffisance. Et je vous assure, l'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Bon à savoir.
Les mois de mars, avril, mai, voire juin sont des mois de la saison des pluies. Cette saison est caractérisée par une quantité abondante de précipitations, un taux élevé d'humidité dans l'air, parfois précédé par de très fortes chaleurs. La réalité est qu'une saison n'a pas seulement d'influence sur le temps, mais aussi sur l'homme, sur l'animal et sur la végétation. Elle implique donc un changement et une adaptation d'attitude et de comportement allant du vestimentaire à l'alimentaire. Ainsi, pour votre menu en cette période pluvieuse, nous vous suggérons une liste des aliments à privilégier. L'eau en premier. L'eau est un aliment indispensable pour l'organisme humain, animal et végétal. C'est le tout premier aliment à privilégier pendant une période pluvieuse, car elle s'accompagne toujours des très fortes chaleurs. Consommer donc une quantité raisonnable d'eau vous mettra à l'abri des déshydratations, des fatigues intenses et des vertiges provoqués par les rayons solaires. Ensuite, les fruits à vitamine C. Une étude a révélé que les fortes chaleurs peuvent négativement influencer l'appétit. Et ce, parce que le corps dépense moins d'énergie pour régulariser sa température face à l'atmosphère extérieure. Il est donc nécessaire de consommer régulièrement les fruits et légumes riches en vitamine C, comme le poivron, la mangue, le citron, la goyave, les oranges, la papaye, etc., afin de stimuler son désir de manger et de renforcer son immunité. Compte tenu de l'insalubrité observée dans certains quartiers en cette période, la saison des pluies favorise une panoplie de maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, la toux, le rhume, la grippe, etc. À cet effet, l'ajout de la citronnelle et du thé de gingembre dans son déjeuner, le choix de l'ail, du poivron rouge, du curcuma en guise d'épices dans son dîner et son souper disposera l'organisme à combattre toute attaque extérieure. En l'occurrence, il faudrait éviter la consommation des fruits amers car pendant cette période, le risque de contamination d'eau est élevé et surtout s'abstenir des aliments des rues qui sont souvent à la merci de la poussière et exposent à la fièvre typhoïde. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Espace Consommateur. Merci à tous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine, à la même heure et sur la même fréquence, Radio de la Paix.
Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.